FMR 89.1.
Nasty Bushwhackers, vous écoutez Radio FMR 89.1 MHz, également sur le DAB plus Canal 7C, ainsi que des fois sur le stream radio-fmr.net, et c'est l'émission Crossover Extrême en direct de la Cinémathèque. Avec aujourd'hui, eh bien, les habitués, bien sûr, l'Acetero. Bonjour, Infested Grunt.
Bonjour.
Et deux invités qui vont nous parler bien de leur sélection qui sera diffusée, qui passera ce soir à la Cinémathèque. C'est une association Grindhouse, hein.
Oui, c'est l'association Toulouse Fantastic Film Club.
Exactement, avec Johan et...
Salut tout le monde.
Et avec Guilhem.
Salut.
Alors, dans cette première partie d'émission, comme d'habitude, on va revenir sur les films qu'on a vus hier, hein, durant toute cette tripotée de films qu'il y avait hier. Ça va se calmer un peu pendant la semaine, il va y en avoir un petit peu moins. Donc, on commence par quoi ? On commence par le film que personne n'a vu hier soir, Mitraillette Kelly. Comme ça, c'est vite fait, quoi.
Ah, moi, je l'ai vu.
Ah, t'es allé le voir, toi ?
Non, mais je l'avais vu parce qu'il est ressorti récemment et voilà, et c'est très bien.
D'accord, ouais, ok, bon. C'est vite vu, quoi, de ce côté-là. Mais il y avait d'autres choses peut-être un peu plus intéressantes. On peut carrément le faire dans le désordre avec, eh bien, le dernier film projeté, en même temps, hein, que Mitraillette Kelly, mais dans la grande salle. C'est Attache-moi si tu peux. C'est le titre de ce double programme, et c'est Quand l'embryon part braconner. Alors là, c'est tout un poème, et là, on t'attend, là. Allez, vas-y.
Alors là, je vais te dire, sur le coup, là, pour l'attachement, mais c'est pas vraiment, il y a peut-être des films, mais c'est plus du sadisme complet de la part du personnage principal. C'est malaisant, franchement, parce qu'en fait, c'est un mec qui capture une fille qui ressemble en fait à son ex-femme qui s'est barrée. On est quand même au Japon dans les années 60, donc la modernisation arrive, et vraiment les traditions, les trucs comme ça sont imprégnés dans la tête du mec, un peu trop même, et du coup il va capturer cette jeune femme et va lui faire subir les pires atrocités. Ouh, ça a été très 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 chaud, et franchement, oh la vache, t'avais juste d'une chose, c'était justement la fin. Cette fin-là, t'avais envie de la voir, parce que quand le film s'attarde vraiment sur le délirium du type, et c'est du très très haut niveau, très très haut niveau.
Un Oedipe
mortel.
En plus, il y a une recherche esthétique, parce que c'est en noir et blanc, et il y a des couleurs qui tournent à des moments, il y a des lumières assez travaillées, il y a des passages très sombres qui s'éclaircissent à certains moments, enfin, il y a un travail.
T'as un travail entre, voilà, esthétique, parce que vraiment, on va dire là où on est dans le présent, c'est vraiment très sombre, et c'est vraiment sa partie très très sombre. Et ensuite, tu as une partie qui est vraiment très très éclairée, on reste en noir et blanc, hein. Donc, du coup, on est,
sur
les flashbacks sur la vie qu'il avait avant.
Et expliquer pourquoi il a choisi cette fille qui est le sosie de son ex. qui voulait un enfant et qui l'a quitté pour avoir un enfant et il veut se venger. En fait.
Ah bon, ben alors bon appétit si vous êtes en train de manger. Mais est-ce que vous avez le catalogue des perversions
même dans le pourtant j'ai fait un manga qui a le catalogue des perversions, des trucs comme ça. J'ai même pas trouvé. J'ai repris le manga pour vérifier sur quelle perversion je peux me taper. Je peux taper. Je ne l'ai pas trouvé. Bon, donc c'est encore une paraphilie qui est pas identifiée.
Bon, d'accord, ok. Mais il y en a qu'on connaît quand même.
Oui, ouais, bah, je te rappelle que j'ai fait un manga en 5 tomes où il y avait des paraphilies de tout type, et vraiment des plus horribles.
Ok, donc ça c'était le film d'hier soir, juste avant la séance de 19h. Il y avait, et y était aussi, oui. D'ailleurs, il y avait donc la carte blanche à Guillaume Perrin pour son film qui est en ressorti en DVD cette année, là, le film de Bruce Beresford qui s'appelle... L'attaque du fourgon blindé, un titre à la con, alors que Money Movers en version originale, ça veut dire quelque chose.
Oui,
c'est une histoire de convoyeur de fond, donc, et puis qui, bon, dans l'équipe, il y en a qui se disent, bon, avec tout ce pognon qu'on trimballe, ce serait cool, quoi, si
qu'on en pouvait un peu
prendre un petit peu, depuis le temps, quoi, qu'on se tue à la tâche pour
un petit peu. La mission, c'est de prendre quasiment tout.
Hein. Oui, voilà, ouais. Et donc,
c'est braquer le dépôt, surtout.
Au départ, ça paraît simple parce que bon, bah, t'as ceux qui, sont les gardiens, justement, de l'argent qui leur appartient pas. En plus, hein, c'est des convoyeurs, hein, on rappelle, hein, c'est pas des banques, quoi. Ils trimballent l'argent dans différents dépôts de banques. Et ce qui se passe, c'est que à l'intérieur même du staff de cette compagnie de convoyage, eh bien, on fait la connaissance de tout le monde, du patron, des grands chefs, des gestionnaires, directeurs commerciaux et tout ça.
Les nouveaux employés.
Et au bout d'un moment, on commence à se rendre compte que y a pas que ceux qui se disent ouais c'est bon on va le faire. Il y en a d'autres qui sont un peu louches aussi et on se demande bien ce qu'ils foutent là quoi. Et alors il va y avoir une histoire de suspicion entre différentes personnes. Déjà il y a une enquête par rapport au lieu quoi, bien sûr. Pour savoir s'il y a une taupe, s'il y a quelque chose, mais en plus, eh bien, pour savoir, car il y a dès le début du film, un petit braquage qui se passe, mais là, plus ou moins par, on va dire, des braquassés, quoi. Hein. Bon, ils réussissent, mais
qui sont réutilisés à la fin pour le gros braquage.
Ouais, mais ils terminent pas terrible.
Tu sens que ce dépôt. Il catalyse tout ce qui peut être braqueur et également à l'intérieur.
Et anti-braqueur.
Voilà.
Il y en a un, en fait, qui semble être un employé normal. Et justement, parce qu'il est trop normal, on va se dire, mais c'est sûrement lui la taupe, il est trop normal.
Voilà.
Mais finalement, c'est quand même, c'est pas une taupe, mais c'est quand même en effet quelqu'un de pas normal.
Voilà. C'est le dépôt central, c'est la cible de tous les braqueurs, de tous les, ça se déroule.
Et ça se termine par une scène de baston et de fusillade qui est quand même assez intéressante,
bien fait.
On va dire. C'est sympa. Et on peut juste dire que la morale est sauve.
Oui. Enfin,
avec un super-héros dont on ne voit pas venir qui va être le super-héros.
Oui,
mais
non, oui.
Mais non. Non. C'est ça qui est pas mal, quoi.
Et
donc,
qu'est-ce qu'il y avait juste avant?
Et avant,
les courts-métrages.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a les courts-métrages. T'es allé les voir, toi?
Oui, moi, je suis allé voir les courts-métrages.
Alors?
En fait, on rappelle le principe, c'était, il y a eu un appel à film amateur de maximum 10 minutes, avec au compte imposé et tout. Donc on a eu des gens qui sont venus présenter leurs films. Il y avait des gens qui font ça régulièrement, qui participent à plusieurs concours, donc ont des films d'un certain niveau, et puis tu as des gens qui ont fait des films exprès. Donc des débutants qui se sont dit, tiens, pourquoi pas moi? Et donc on a eu des lycéens qui ont fait des films, et après il y avait un collectif qui s'appelle Sylvie Productions, qui a fait un film très intéressant avec un gars qui veut sauver les fromages et qui prend des cours de Kung Fu auprès de Maître Kung Fu. Là, ça m'a rappelé Kung Fu, la série avec Carradine. Là. Donc, et puis après, il va casser la gueule au gars qui veut sacrifier tous les fromages. Ça finit avec une chanson hyper kitsch avec, bien sûr, tu sais, l'effet qu'on met sur les voix, là, maintenant, super ringard, là, autotune,
oui.
À fond, là, avec des paroles super ringard, qu'il faut sauver les fromages, comment c'est vachement bon.
Alors,
les films sont efficaces et ils sont comiques, souvent, quand, mettons, le vendeur de roses, à un moment, il y a un gars au fond d'un bar, là, avec un look très rock'n'roll, un étui à guitare, et puis quand un couple rentre, il y a une musique western qui démarre, il ouvre les tuyaux à guitare, tu te dis ça y est, il va jouer, ça va être terrible. Et non, en fait, il sort un bouquet de roses, il dit une petite rose pour la dame. Et c'est Benda Rosa, voilà, qui fait de bar en bar. C'est 20 euros, c'est très drôle.
Magnifique.
C'est long, c'est travaillé à la
bestiaire. Et cette histoire de fromage à défendre, eh bien, ça me rappelle le film Mad Heidi. Je sais pas si tu te rappelles, hein, le film qui avait fait la clôture l'année dernière à ce même festival extrême à la Cinémathèque, où t'as également, bien, une histoire de fromage, vu que ça se passe en Suisse.
Et exact, bon, exact, voilà. Je me souviens maintenant.
Tu te souviens maintenant?
Oui, les usines, là.
La grosse usine, ouais, ouais. Voilà, quoi.
Là, c'est très amateur.
Les petits producteurs français qui arrivent aussi, quoi. Ouais. Hein,
je tiens à préciser quand même que dans le court-métrage, ils ont maltraité des fromages. Je sais pas s'il n'y a pas moyen de porter plein moment avec une hache et tape sur du brie par terre, il écrase des fromages de chèvre dans sa main. Je pense qu'il y a moyen de porter plainte pour avoir parce qu'il y a eu maltraitance de fromage dans le film. Et même si le propos est de les sauver, il y a quand même eu des sacrifices.
D'accord. Quelle sorte de fromage?
Il y avait, je crois que c'est des grands bris. Un grand bris, ils sortent des cartons. Le gars, il fait du trafic, puisque il veut échapper aux méchants qui veulent tuer les fromages. Et après, il y en a un autre, il sort de, je crois que c'est des chèvres ronds.
Ah oui,
camembert.
D'accord. Cendré. Ah oui, d'accord.
Voilà. Je sais pas si c'est vraiment des chèvres, mais c'est tu vois, ce grand truc.
Oui, oui, je vois tout.
Donc ils les écrasent en sa main.
Chèvres, Bobby.
Parce qu'ils n'ont pas pu les sauver. Je pense que.
Oui, mais est-ce que le brie, c'est vraiment du fromage?
Ouh, joli.
Les lance pas, s'il te plaît. Les lance pas.
D'accord. Okay.
Et ensuite, il y avait tous flics. Je crois qu'il y avait un.
Mais voilà, Moki.
Et le Moki, donc. Voilà.
Moi, j'ai bien aimé. Oui, oui, c'est. Ouais. Ben, déjà, tous flics, traité par Moki. Déjà, tu vois le titre et le réalisateur te dit ça va dénoncer. Bon, c'est sur le ton de la comédie, mais c'est vrai que ça dénonce pas mal. Moi, ce que j'aime bien chez Moki, c'est que ça filme que le propos. Donc, les détails, les fioritures, allez hop,
rien à foutre.
Voilà, ça fait penser à des bandes dessinées, tu vois, où les flics sont cachés derrière un mur. Mais comme il faut qu'on voit tous les flics, ils sont à côté du mur. Et les mecs leur passent devant, ils les voient pas. J'adore ce genre de truc. Donc, le propos, c'est que la police est débordée et ils ont pas d'argent. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Ils proposent aux citoyens de devenir auxiliaires de police et au lieu de les payer, on leur file une prime à chaque arrestation. Donc, tu te doutes que ça va partir à cacahuète assez vite. Donc évidemment au début ça démarre assez bien, il y a de bonnes arrestations, les mecs ils partent sur les terrains, ils arrêtent des dealers, des macs, tout ça, mais assez vite ça part au règlement de compte parce qu'en plus on donne des flingues à ceux qui tirent pas trop mal, ben, tu vois, et donc évidemment il y a des bavures, mais il y a un scientifique qui dit attendez, je vais arranger ça, on va leur mettre un suppositoire qui va les rendre gentils. Et ils sauront plus ça, mais le suppositoire il marche pas bien. Il y a des effets secondaires, il se gratte, il y a des cornes qui poussent. Enfin, ça va.
Oh là là. Ouais, ouais.
C'est super. Un peu d'humour, un peu gras, mais dans l'ensemble, ça dénonce pas mal. Il y a les gilets roses, ils font des manifs contre cette loi justement des flics auxiliaires et qui du coup en candidat un peu certains. Enfin, moi j'ai trouvé ça assez drôle. Mais c'est filmé très simple, c'est la télé des inconnus quoi.
D'accord.
Le propos, c'est pas mal, c'est bien joué hein, les acteurs. Il y a pas d'acteurs connus d'ailleurs.
Mais non justement, hein, quand j'ai regardé le casting, je me suis dit merde, je connais personne.
Voilà, il y a personne de connu dans le film, mais ça joue quand même super bien. Mais après c'est filmé dans la rue, t'as les badauds derrière là qui regardent. Mais qu'est-ce qui se passe, ils tournent un film et tout, donc t'as une foule qui regarde. C'est pas grave, on tourne quand même. S'il y a une foule en arrière de fond, carré. Rien à voir, c'est dans la rue, c'est pas grave, c'est simple, c'est sûrement tourné en très peu de temps, mais c'est efficace, le propos est là et c'est l'essentiel.
Ok, ben on a fait le tour de... Oui ?
On
a fait le tour, donc ben on va se faire une petite pause musicale. Hein, j'ai loupé l'entrée avec le morceau bourrin. Ah ben le morceau bourrin, c'est maintenant quoi, okay. Voilà. Coming forth to the same old shit that you're running your mouth and face off to it. Give me a look like you never knew. Will they all see what you're gonna do? Things like shot all life, the last thing is as bad as I can, but you know. They can't be doing it for your sentence faster. So you think it's right to go home? Why you're saying it's nice to me, yeah. It's like you say it's just nice to me, yeah. Why you're saying it's nice to me, yeah. Who's the lad is sending me my story? Lost the paper like he fucking knows me. I just report to that it's getting signed.
Eh bien, comme le disait si bien, le chantait si bien les chisel, the chisel, ouais, ça veut dire le ciseau en anglais, ciseau, l'outil, quoi. Bah ouais. Et nice to meet you, Johan et Guilhem. Donc, les deux membres d'un trio qui, sous le nom de l'association Grindhouse, nous offre quelques petites pépites, une par année maintenant. Alors, à l'extrême cinéma. Alors, tiens, j'aimerais bien que vous me racontiez comment ça a commencé votre collaboration, parce que là, c'est la troisième année que vous faites.
C'est la cinquième édition, cinquième, là, cette année.
Cinquième.
Qui arrive en avril.
Ouais. Comment ça a commencé? C'était quoi? Vous êtes venu à la Cinémathèque faire du forcing?
Ouais, non,
je crois. La
collaboration, je pense, parlait.
D'accord, pardon. Ah non, je croyais que tu.
Ouais, voilà, nous, ça fait 5 ans, et après, la collaboration avec la Cinémathèque.
Mais c'est la troisième année. C'est la troisième année, de toute façon.
L'année prochaine, on vous posera la même question, vous inquiétez pas.
Ah, mais on aura les mêmes arguments, hein, comme d'hab.
Non, ça s'est fait de manière assez naturelle, puisque déjà avant le lancement du festival, hein, on a fait un petit peu le tour des acteurs culturels qui étaient un petit peu en lien avec nous, le festival qu'on voulait monter, et notamment à la Cinémathèque, on est venu rencontrer l'équipe. Voilà, pour leur dire qu'on avait ce projet de festival de cinéma fantastique, mais qu'on serait que sur l'aspect avant-première, l'aspect très contemporain, hein, dans la programmation, et que du coup on voulait quand même se signaler à eux, voir s'il y avait moyen de faire des partenariats ou du moins des ponts entre nos deux événements. Et puis au bout d'un an, ils sont venus au festival, on en a discuté, et puis ça s'est fait comme ça.
Ça s'est fait naturellement.
Ouais, après, nos deux événements, ils sont complémentaires. On va dire qu'il y a des festivals, hein, qui regroupent à la fois une programmation de patrimoine et à la fois une programmation d'avant-première. Nous, on le fait dans deux événements séparés, mais ça pourrait être un seul et même événement.
Mais c'est vrai que... Et puis ça a toujours été même un des points de départ quand on a monté Grindhouse Paradise. De toute façon, on s'était posé la question. On venait tous déjà beaucoup à Extrême Cinéma. On a fait nos armes ici, donc. Ça s'est posé directement. On a dit bon, en fait, le patrimoine, ça existe déjà. Ils le font très bien. Donc, en fait, nous, ce qui nous manquait dans l'offre culturelle à Toulouse, c'était justement ce type de cinéma, mais sur le contemporain. À chaque fois, on se voyait à l'extrême, on se disait mais qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Et puis, en fait, à force notre festival, il vient de là aussi, quoi.
Mais c'est beau. Pardon, je suis désolé du sport, mais c'est vrai que c'est beau cette collaboration, comme vous dites, complémentaire Grindhouse et Cinémathèque, parce que Cinémathèque, comme quand vous dites patrimoine, eux, ils vont quand même aller sur des choses où on peut justement favoriser le projecteur numérique, le 35 mm quand ils peuvent, quoi.
Ouais.
Et donc du coup aussi, avec ces films underground du patrimoine, ils sont un peu atténués aujourd'hui, vu que beaucoup de gens les ont vus, revus, défendus, et revenir du coup vous avec, c'est ce que vous avez dit, c'est des avant-premières en fait que vous passez. C'est juste qu'aujourd'hui, le terme avant-première
du contemporain.
C'est ça. Un festival d'avant-première. On peut faire un peu de reprise, mais on en parlera après. Mais voilà, en tout cas, la collaboration, elle s'est faite assez naturellement. Et du coup, ça fait 3 ans que le Grindhouse Paradise propose une séance avant-première à l'extrême. Ouais. Et 2 mois après, l'équipe de la Cinémathèque vient au Grindhouse Paradise pour notre séance culte. Du coup, on a une séance patrimoine. C'est toujours cool d'avoir dans un festival d'avant-première quand même une séance culte où tu peux rebalancer des gros missiles, que des fois nos spectateurs n'ont pas vu même.
On se sert des ressorties 4K comme argument ou comme excuse pour les repasser en salle.
Mais il y a des bonnes surprises avec les restaurations de films en 4K, hein. Cinémathèque, monsieur, l'année dernière.
Tout comme il y en a des mauvaises. Je n'ai rien dit, je ne fais plus partie de ça.
C'est même une opportunité, parce que si des fois il n'y avait pas de ressorties 4K numériques, j'entends, avec des DCP, il y a des films qu'on pourrait pas montrer, puisque le Cosmo n'est pas, l'American Cosmograph n'est pas équipé pour projeter de la bobine.
Mais ça m'intéresse par contre ce que tu as dit justement sur, il y a des mauvaises surprises sur les restaurations 4K, parce que autant il y en a eu des bonnes. Moi je sais que Schizophrénia ou même le Convoyeur, d'un film français de Nicolas Boukrieff, j'avais été en 4K, et il y a des films qui sont vachement atténués. Ça c'est un débat qui m'intéresse, tu vois, genre beaucoup ont gueulé sur Casino quand c'était la restauration, pas 4K, mais je crois que c'était Blu-ray, ou parce que d'un coup on voit les ficelles. Ça atténue un imaginaire en fait.
Non, ouais, après si tu veux, je sais pas si c'est vraiment pertinent là, parce que c'est un débat qui pour moi a pas de fin. Et pour le coup, tu vois, tu parles de Casino, il y avait des mecs qui se plaignaient à la ressortie de 2000 ans que en fait c'était trop blanc, que en fait finalement la pellicule d'origine elle avait jauni, que en fait du coup il fallait laisser maintenant le jaune parce que le film a vieilli. Ah, c'est sans fin. Moi, ça me fait penser à Cruising, pareil, quoi, qui perd tous ses effets bleutés parce que, bah, en fait, Friedkin a décidé de Enfin, voilà. Là, je sais pas si c'est, mais c'est, on peut en parler si tu veux.
Ah, mais tu as donné quelques exemples. Moi, ça me suffit.
Le cinéma vit. Voilà. Y a pas de trop de piédestal non plus, quoi. Je pense que, voilà. Mais.
Et puis il y a différentes portes d'entrée, je pense, pour ce débat, hein, qui est super intéressant. Mais est-ce que aussi des fois une ressortie 4K, même si ça dégrade, je sais pas si c'est le mot, mais même si la qualité d'origine elle est impactée, est-ce que le plus important en fait c'est que ces films, c'est d'éviter que les films tombent dans l'oubli, par exemple, tu vois.
Bien sûr.
Et enfin voilà, il y a différentes, je pense, il y a différents arguments. C'est vrai, comme disait Guillaume, on pourra en parler toute l'après-midi.
Mais... Ouais, c'est ça là, parce que si on se lance dessus, c'est terminé.
Moi, je prie pour le retour de la VHS, donc je suis peut-être pas non plus très neutre dans ce débat. Voilà,
t'as encore un gros marché de la VHS.
C'est vrai, sur le bon coin.
Ouais, ou ailleurs, et même des gens qui proposent de magnétiser. Il y a, mais après, c'est... Bon, bref, ça, c'est encore un autre débat sur le numérique et ce qui est devenu la qualité de l'image.
En tout cas, vous êtes là pour présenter déjà un film ce soir. On parlera de votre festival en avril un petit peu plus tard.
Ouais.
Hein, ok. Alors, c'est un film espagnol. Alors, je peux vous dire que quand on a reçu le programme au départ, bien avant de commencer l'émission, j'ai eu la remarque, et que je me suis faite également, quoi, à la lecture du programme. Je me suis dit, tiens, il y a beaucoup d'espagnols cette année. Parce que, bon,
c'est pas de notre faire.
Outre vous, il y a également Gaspard Noé
qui présente
deux films espagnols, et il y en a encore un autre qui est également espagnol. Donc,
c'est vraiment étonnant.
L'année dernière aussi, il y avait eu du film espagnol.
Oui, mais
il y a eu pas mal l'année dernière.
Ouais, mais pas autant que ça. Pas autant que ça, quoi.
Nacho Cerda.
Nacho Cerda, oui.
La carte blanche de Pete Tombs qui avait ressorti.
Oui, mais Nacho Cerda, est-ce que c'est vraiment du film espagnol?
Ah bah oui. Je pense que
c'est ça, quoi. Je pense que ça dépasse un petit peu ça c'est un autre débat. Comme d'habitude, vous nous présentez donc petite perle complètement inédite. C'est d'un réalisateur espagnol qui s'appelle Calle Casas. Le film, c'est La Mesita del Comedor. J'ai bien dit, hein. T'as vu, hein, je commence à pratiquer, quoi. Pas mal. Et donc, allez-y, je vous laisse. Vous avez choisi ça comment? Vous connaissiez Calle Casas?
Oui, Calle Casas, c'est un réalisateur qui a pas tant de films que ça à son actif.
Il en a fait deux.
Il a une poignée de courts-métrages,
ouais,
trois.
Ouais.
Effectivement, Matar a Dios, son premier film, qui avait d'ailleurs, c'est que ce soit ses courts-métrages ou son précédent long-métrage, il était en binôme avec Albert Pinto. Et c'est la première fois là qu'il se colle à l'écriture et à la réal en solo pour un résultat qui nous a bien régalé. En fait, le film, moi j'en ai entendu parler pour la première fois en avril 2023, puisqu'il a commencé à faire un petit peu le...
C'était l'année dernière.
Dernière. Il a commencé à faire le tour des festivals en début d'année dernière et à faire parler de lui, puisqu'il a récolté plein de prix du public au BIF, par exemple, le Festival du Film Fantastique de Bruxelles. Il a eu le en septembre dernier à Strasbourg, il a eu le prix Crossover.
Il enchaîne.
Et puis voilà.
T'as vu, on donne un prix, donc.
Non mais après je parle des prix, mais t'as raison, c'est pas forcément ce qui fait la qualité d'un film, mais en tout cas c'est un film qui a très rapidement fait parler de lui au moment où il s'est lancé sur le circuit des festivals. Donc
il est validé par on va dire l'intelligentsia cinéphile.
Et bien pas forcément, puisqu'il a eu beaucoup plus de prix publics, et moi ça c'est ce qui nous intéresse, beaucoup plus de prix publics que de prix de jury, tu vois. Et moi, j'ai souvent tendance à regarder les prix publics parce que c'est aussi dans le cœur du Grindhouse Paradise, le festival, c'est aussi de régaler l'audience. On se régale, tu vois. En gros, nous, on fait le festival auquel on aurait aimé assister. Pour le résumer en deux mots, le Grindhouse Paradise. Donc, quand on voit un film qui nous éclate comme ça, c'est quelque chose qu'on a envie de soutenir et de montrer du coup à d'autres.
Ouais, et puis. J'allais dire, et puis en vérité, c'est pareil, tu parles de validation, mais c'est. Pour le coup, c'est des films dont c'est important d'avoir la validation des festivals. Où nous, on est très attentifs aussi aux... C'est important pour ces petits films, quoi. Même nous-mêmes, on a un prix public. Et en fait, tu vois, si tu vas à Cannes et que t'as une validation, c'est peut-être la validation de l'intelligentsia.
sur des gens qui sont des petits réalisateurs de petits films, pouvoir se faire valider, se faire montrer dans plusieurs festivals, c'est déjà en soi quelque chose bah, qui peut aider, quoi. C'est autre clair. que de discuter, de tailler le bout de gras sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, tu vois. C'est...
Et puis voilà. Souvent, les réals, d'ailleurs, ils le disent, hein, qu'ils préfèrent des fois avoir un prix du public, la reconnaissance du public, presque plus que la reconnaissance de la critique ou de l'intelligentsia, tu vois. Donc,
oui, bien sûr.
Enfin bon, bref.
C'est un show qui est pas pareil, quoi, pour moi.
Mais alors, selon vous, qu'est-ce qui dans ce film-là, et du coup, dans les films finalement que vous appréciez aussi pour le Grindhouse Paradise, a pu plaire dans le public?
Ah bah, clairement, c'est pas un film, c'est un coup de tête.
Ah oui.
Ah non, c'est un film. Alors c'est ce que je disais en off, c'est que c'est un peu délicat de parler de la Mesita del Comedor, parce que c'est un film qui est à fond dans l'humour noir, donc ce mélange assez dur à trouver des fois entre le côté très choquant de ce qu'on montre et un traitement un petit peu plus humoristique, du scénar. Le film en 10 minutes, en 10-15 minutes, c'est un peu un film high concept, si tu veux. Je pourrais te le résumer en une seule phrase. Mais le problème, c'est que l'effroi que suscite d'assister, vierge de toute info, hein, l'effroi que tu ressens quand tu assistes à l'élément déclencheur du scénario, hein, ça intervient dans les dix premières minutes du film. Mais j'étais scotché. D'autant plus que je trouve que ça c'est vachement bien, parce que il y a différentes écoles, hein, dans l'équipe du Grindhouse. Il y en a qui sont, dont moi, totalement réfractaires aux spoils et aux bandes annonces. J'essaye d'en voir le moins possible pour découvrir les films comme ça. D'autres s'en foutent un peu plus. Donc les deux s'entendent, hein, mais en tout cas moi j'ai la Mesita del Comedor, j'ai vu qu'il avait des prix un peu partout, et il faisait parler de lui aussi sur les, tu sais, Letterboxd, IMDb, tous ces réseaux un petit peu de spectateurs là et de spectatrices. Et du coup j'en ai lu très peu, mais le peu que j'ai lu gardait justement ce fameux élément déclencheur du film. Ça gardait, la bande annonce et les synopsis présenté par les autres festivals, garder secret ce petit élément déclencheur. Donc j'ai envie de dire que ça fait partie de l'expérience du film, justement, de ça. On sait pas à quoi s'attendre, tu vois. Tu peux, vu le synopsis, tu peux t'attendre à une table démoniaque, un accident domestique, tu peux t'attendre.
Oui, parce que l'élément déclencheur, en fait, c'est une nouvelle table basse installée dans le salon. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire, quoi. Alors donc, tu peux te dire, bon, à partir de ce propos, ben, on peut partir un petit peu dans le surréalisme ou dans des trucs pas possibles. C'est-à-dire, on peut imaginer tout et n'importe quoi.
Une table possédée, une table monstrueuse. Enfin voilà, c'est pour ça que du coup, et moi, je suis rentré dans ce film-là comme ça, quoi. Je savais pas à quoi m'attendre, et je pense que l'effroi que ça m'a suscité a été encore plus fort. Mais effectivement, bah, peut-être pour juste en deux mots, sans spoil, le film La Mesita del Comedor, on va suivre un couple plutôt dysfonctionnel. On voit que les échanges sont pas toujours très sereins. Ils ont des petits, un couple exactement, ouais. Qui vient de ils ont accueilli leur premier enfant il y a très peu de temps, mais on sent que c'est quand même un couple dont la stabilité est un petit peu précaire. Et la première scène, on est dans un espèce de magasin où il y a un vendeur qui fait son speech pour vendre une table basse qui est assez dégueulasse, hein, faut le reconnaître. Et l'homme Jesus est à fond dans la table. Limite, si on l'écoute, ça va résoudre ses problèmes de couple. Et Maria, sa femme, la trouve mais complètement moche. Et elle voit pas comment ça pourrait s'inscrire dans la déco de leur appart. Voilà. Et bon, bah, il l'achète, cette table. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Mais en tout cas, cette table va entraîner une succession d'événements qui va littéralement faire plonger le quotidien du couple, du mari, de la femme, dans un enfer sur terre, quoi. Et c'est marrant parce que pendant la promo, je lisais 2-3 trucs, hein, sur le film ces derniers jours là, et le réalisateur, lui, en fait, il adore le cinéma de genre. Mais il dit, moi, ça fait 10 ans que je vois des films et qu'il y en a plus aucun qui me fait peur, il y en a plus aucun qui me touche vraiment. Et en fait, La Mesita del Comedor, pour moi, c'était vraiment de faire un film que l'audience n'était pas, que le public n'était pas prêt d'oublier. Et voilà, après, ça fonctionne pas. Je pense que aussi en fonction de la sensibilité des spectateurs et des spectatrices, tu vas pas y rentrer pareil dans le film. Ouais. Mais en tout cas, je pense pas que ce soit un film. Enfin, c'est un film qui est suffisamment choquant, qui bouscule, qui
t'interpelle et qui du coup réussit pour moi son pari de jouer sur les deux tableaux de l'effroi et de l'humour pour te marquer. Et clairement, moi je l'ai vu, je sais plus quand est-ce que je l'ai vu, mais probablement
j'ai on l'a vu il y a longtemps, je
dernier, crois. Août-septembre, parce que le distributeur du coup nous l'a proposé pour le Grindhouse Paradise de l'année dernière, mais on avait déjà bouclé la prog, donc c'était un peu tard. Et du coup voilà, je l'ai regardé une fois que le festival était passé, qu'on était un peu plus libre, on l'a regardé quoi. Et je m'en rappelle encore quoi. Je m'en rappelle encore.
Et donc si on veut rassurer, si on veut rassurer ceux qui sont réticents, vous savez, il peut y avoir des puristes qui eux veulent que avoir peur. Ils aiment pas trop ce mélange humour peur. Au moins ils peuvent être sûrs d'être déstabilisés.
Ouais. Ah nous on est là pour rassurer personne. Hein. Vous allez voir le film, vous allez voir, c'est cool. Non,
c'est pas de problème. Ah non, mais vas-y. Moi c'est une très belle réponse, ça me va parfaitement.
On n'est pas là pour rassurer.
Non mais c'est un
les trigger warning, c'est un peu compliqué, mais ouais, il y a des choses un peu choquantes, mais pas forcément ultra gore, tu vois.
Non, c'est clair.
C'est pas du torture porn.
C'est regardable. Il y a seulement ce côté corrosif à l'européenne.
Très corrosif, ouais. Et c'est marrant parce qu'en fait c'est un film indé qui a été fait avec 3 francs 6 sous quoi, et en fait. Je vois pas comment un film comme ça aurait pu être fait dans un autre contexte de production, et ça c'est quelque chose moi qui me régale. Le titre d'ailleurs, c'est marrant parce que le premier film de
Kaye Casas.
Oui, Kaye Casas.
La table de café.
Qui s'appelait Matar Dios. Donc j'en parlais tout à l'heure. C'est l'histoire en fait d'une famille dysfonctionnelle. Il y a des thématiques qui reviennent entre son premier et son deuxième film. Je sais pas si certains l'auront vu, mais pareil, Matar Dios, il avait fait un peu le tour des festivals. Et il est disponible en France sur la plateforme VOD.
J'ai lu le pitch justement de Matar Dios. Et là, ouais. Là, ça m'a. Je me suis dit, ah bon, d'accord, ok. Ouais, pour dire, vous n'avez pas repéré Matar Dios. En fait, c'est une famille un petit peu élargie qui va prendre passer un week-end un petit peu pour resserrer les liens, tout le bordel, et il y a un type qui se ramène. Ce type c'est un lutin, et en fait il dit je suis Dieu et je vous annonce que demain matin tout le monde va mourir. Et là, dans votre groupe, il n'y en a que 2 qui pourront survivre. Voilà, c'est le truc du départ. Quand tu dis,
c'est hyper bien en plus, hein, Matar Dios. Matar Dios.
Et justement, du coup, je parlais de ça parce que Matar Dios, là, avec son nain SDF alcoolique qui prétend être Dieu, le titre Matar Dios, malgré le fait que ce soit un film indé et à très peu de budget, l'exploitation sale a été très compliquée en Espagne parce que l'Espagne est encore un pays qui est très catholique, bien à fond dans la religion. Et du coup en fait Alberto Pinto et Kaye Casas ont eu des problèmes à distribuer leur film en Espagne à cause du titre Matar Dios. Ça plaisait pas aux gens, les gens n'avaient même pas lu le petit synopsis de quoi parlait le film, mais déjà ils étaient réticents. Et c'est un petit peu le petit truc un peu rigolo avec la Mesita del Comedor, la table à café. Kaye Casas a choisi un titre complètement inoffensif pour son second film comme un pied de nez un peu au distributeur, en mode ok, mon second film est encore plus choquant que le premier, il pousse encore plus loin les curseurs de ce qui est choquant, mais par contre je vous mets un titre à la con, comme ça vous verrez pas venir ouais, ce qui va vous arriver quoi.
Et puis en plus c'est cohérent avec le film, hein, y a cette espèce d'effet papillon de l'événement, du non-événement en fait, qui pousse à voilà.
Kaye Casas a l'air d'aimer malmener les petits idéaux parfaits entre le couple et la religion, ouais. Ça a l'air sympa.
Ah bah c'est vrai que quand on parlait de Matar Dios, on a famille dysfonctionnelle, on a un petit élément qui arrive qui peut être résumé en 2 mots là et qui va bousculer un peu les habitudes de tout le monde. Ouais, c'est de toute façon même ces courts métrages, il y avait un court métrage aussi que j'avais vu en festival qui s'appelait RIP et c'était dans une chambre funéraire où il y avait un cadavre. Enfin voilà, c'était pareil, c'était aussi un mélange d'humour noir et de terreur et c'est un peu le créneau de ce réalisateur et en tout cas moi en ce qui me concerne ça a marché à fond et on espère que ça marchera à fond avec les spectateurs.
Ouais, c'est un vrai réalisateur à suivre, vraiment.
Ouais, c'est
voilà. D'ailleurs l'acteur principal qui joue le rôle de Jesus dans le film jouait déjà dans Matar Dios, hein, donc c'est vrai qu'il a une sacrée gueule quoi, le mec, hein,
en plus. Il a un nouveau film prévu ou pas?
Cahier Cazin,
ouais.
Il est encore en train de faire la promo de ce film-là. Qui continue. Il est passé en décembre au Festival du Film Fantastique de Paris, par exemple. Donc, il est encore en train de soutenir la sortie.
D'accord.
De ce
Donc,
film-là.
Pas encore de film encore prévu.
Ou alors, je suis pas au courant.
D'accord.
J'ai pas vu passer l'info. Quoi.
Allez, on va se faire une petite pause musicale et ensuite, eh ben, on parlera de votre festival à okay. vous, hein, juste après ça.
Tomato, pizza, pizza, pizza.
Kamata, encore un petit de musique bollywoodienne, mais ça c'est moderne quand même, c'est Kalanji Alanji, donc avec ce morceau instrumental. On est toujours à la Cinémathèque dans Extreme Crossover et on est toujours en compagnie de deux des membres de Grindhouse, qui organisent et qui vont présenter ce soir donc ce film espagnol, La Mesita del Comedor. À présent, eh bien, on sait que vous faites pas que ça, hein, vous avez également votre propre festival qui est un petit peu plus réduit, faut le dire, quoi, mais qui néanmoins est de très très bon goût.
Oui, ça fait,
alors vas-y.
Allez, c'est parti.
C'est la cinquième édition, donc en 2024, et on est sur trois jours et une soirée d'ouverture.
Ah, trois jours, là, ouais,
on a grandi l'année dernière.
Ça grandit tout petit à petit.
Le festival deviendra grand. on est sur ouais voilà une programmation de film voilà dans une au cinéma américain Cosmographe on 16 films voilà. Tout ça en avant-première ou inédit dans le sens où si c'est des films qui sont sortis directement en vidéo sans être exploités en salle on peut les diffuser histoire de pouvoir les découvrir sur grand écran ouais. Voilà c'est déjà arrivé qu'on fasse 2-3 séances comme ça mais voilà c'est un festival d'avant-première et un petit peu comme l'extrême comme le festival Extrême Cinéma on se jette principalement du côté du cinéma un petit peu de mauvais genre quoi donc cinéma fantastique horreur thriller polar western tout ce qui est tout ce qui, le ouais. cinéma de genre quoi on va dire voilà pour ce que
mécontemporain comme on l'a dit
mécontemporain voilà on est un petit peu les deux faces d'une même pièce avec l'extrême on va dire voilà
contemporain
plutôt sur le versant
et
contemporain
avec une pluralité des nations aussi quand même
oui alors ouais, ça c'est
quand même d'avoir l'équilibre
on a donc comme je disais ça dans les grandes lignes hein, le festival bah de toute façon le festival il est parti d'une certaine frustration hein, parce qu'on est tous cinéphages amateurs de cinéma fantastique et c'est vrai que dans le sud de la France il y avait quand même pas grand chose pour découvrir les films en avant-première. On faisait, enfin moi en ce qui me concerne, je me déplace 2-3 fois par an, que ce soit à Gérardmer, au PIF ou à Strasbourg principalement. Voilà, mais ça nécessite de pouvoir se déplacer à l'autre bout de la France, voire plus loin. Et donc c'était un peu une frustration et on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas la place ici à Toulouse d'organiser un festival de cinéma de genre, mais voilà, ouais, puis... il faut se retrousser les manches et le faire. Et voilà, quand on s'est rencontrés en 2018 au cinéma éphémère de la Cartoucherie avec l'autre Johan, bah voilà, on a fait un apéro où on s'est dit bon, ah, ça vous tente pas les gars de faire ça et puis comme les plus beaux partenariats sont scellés autour d'une bière ou d'un Ricard en l'occurrence, c'est comme ça que ça a commencé quoi.
Mais après c'est vrai que c'est devenu enfin tu vois que tu parlais du PIF de Gérardmer et tout, c'est que nous pour le coup on a été chercher des trucs qui étaient vraiment petits quoi pour démarrer. Et ça s'est transformé en vrai truc où on s'est dit, mais attends, effectivement, il y a plein de films d'autres pays, il y a plein de choses qui sont pas montrées. Enfin, si tu veux, voilà, nous, si on a un obscur film kazakh à
vous
montrer...
Vous allez plus le privilégier.
Ouais, mais parce que c'est ce qu'il faut. Noble. Parce que c'est ce qu'il faut. Ce sont les films que nous verrons nulle part, en fait, quoi.
Moi, rien que de votre première édition, j'ai un souvenir d'un film qui m'a terrifié, alors que je pensais être un peu rodé, et c'était un film, je crois qu'il était indien.
Tombad, ouais, qui avait marqué beaucoup de gens, Tombad, ouais.
Mais parce qu'on n'est plus habitué à voir, c'est un avantage que vous mélangez.
Tombad n'a aucune édition nulle part.
En fait, oui, c'est clair. Même en Inde, je le trouve pas en
Inde.
Mais en fait,
il a été pirate sur YouTube. J'ai pu le retrouver sur YouTube.
Ouais, mais parce qu'on
veut aller dans les gens qui.
Si tu veux, en fait, moi je trouve qu'aujourd'hui, le cinéma de genre, c'est plus forcément le cinéma de niche que ça pouvait être il y a une vingtaine d'années, tu vois. Mais cela étant dit, c'est ultra simple de tomber sur les films ricains, voilà, on va appeler un chat un chat, hein. et d'ailleurs c'est la réflexion qu'on se faisait il y a quelques jours quand on a fait une réunion, quand on discutait de la prog, c'est de se dire,
marre des ricains,
il y a que ça, il y a beaucoup de films, donc je pense que c'est aussi la responsabilité d'un festival de bien écrire son projet, de bien écrire sa ligne artistique, et les deux particularités qui en ce qui concerne le Grindhouse Paradise, c'est de s'intéresser un peu plus particulièrement aux réalisateurs et aux réalisatrices émergentes, c'est-à-dire que dans notre compétition, on a une section compétition, c'est que des premiers films, c'est que des premiers longs métrages. Voilà, ça c'est la première particularité, soutien à l'émergence. Et la deuxième particularité, c'est aussi en effet de mettre en avant des cinématographies qui sont des fois pas ou peu visibles en France. Tu parlais du cinéma indien, ça a changé ces dernières années, on est d'accord.
Oui, mais ça change parce qu'il y a un film comme RRR qui d'un coup va mettre en lumière un certain pan du cinéma d'action. Mais ça arrive tous les combien, ça?
Ça arrive tous les combien, et puis c'est surtout que ça représente 0,001% de la production cinéma, tu vois.
Exactement.
Donc voilà, nous on s'est dit qu'on avait aussi envie de montrer des films ricains. On n'a rien contre les films américains, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on a aussi envie de montrer d'autres cinématographies. Et comme tu disais, voilà, l'année dernière on avait un slasher kazakh qui était mortel.
Un thriller. Ah oui, non, attends, c'était. Je confonds. On a eu un slasher qui était.
Pas kazakh,
qui de Mongolie.
Regarde, laisse remémorer des souvenirs, comment c'est super mignon.
Non mais bon, de toute façon, on est tous les trois convaincus que c'est important de montrer des films d'endroits, de points de vue différents, en fait. Je pense que c'est important, même pour un cinéphile, de s'offrir d'autres choses, quoi. Tu vois, moi j'adore par exemple le cinéma asiatique, mais il y a des gens à qui ça parle pas du tout. Mais par contre, je pense qu'en tant que cinéphile, ou même, il faut aller voir certaines choses, quoi. Il faut, on peut pas uniquement être là et donner la voix au chapitre unique.
C'est clair.
D'où l'importance, voilà, de voir et de...
L'année dernière, il y avait des séances avec de l'animation aussi, parce que moi je me souviens de Mad
oui.
Dog,
ouais,
Mad God, pardon, ouais, qui était pas mal. Et il y avait un autre film.
Ah, celui-là, il était ricain, mais vous le passiez. Hein. Celui-là, fallait le passer.
Hein. Non, bah après ça s'impose.
On les aime les Américains.
Après, on les aime les Américains, mais après, tu sais, c'est ce qu'on dit tous les ans, c'est que nous, étant donné qu'on passe du film contemporain, en fait, on est un peu lié aussi à l'actualité. Faut pas se mentir, quoi. Il y a des films qu'on adore, que d'une année sur l'autre, par exemple, Coffee Table, oui. Johan le disait, on nous l'a proposé l'année dernière. On aurait pu se dire, bah non, et en fait, finalement, on l'a aimé, on va faire en sorte de le passer. Mais tu vois, quand t'as un truc comme Mad God, effectivement, après se pose la question dont on parlait tout à l'heure, c'est est-ce qu'en fait, c'est des films qui ont besoin de nous? C'est parce que Mad God a eu une sortie en salle, etc.
Oui, et puis Mad God, c'était loin d'être du Marvel, tu vois. Donc on est face à des esthétiques, des techniques de conception de films, des productions qui s'étalent sur 20 ans. Voilà, ça c'est notre cam. Ça c'est des trucs qu'on a envie de montrer, de défendre, de soutenir. Même si, comme disait Guillaume, le film il a pas forcément besoin de nous, parce que voilà, Phil Tippett c'est quand même un nom, donc voilà. Mais quand même, tu vois, à Toulouse, comment tu pouvais voir Mad God en salle si c'était pas dans un festival, tu vois. Donc c'est aussi notre rôle, je pense.
Mais c'est quoi? Il y a aussi
Spine of Night, qui était américain aussi. Mais
j'en prends deux, mais c'est deux animations, deux types d'animations.
Film d'animation en rotoscopie qui était juste ouf. On n'a pas vu de la fantasy, de l'heroic fantasy aussi gore et aussi aussi puissante depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans. J'en sais rien, tu vois. Donc ouais, c'est pareil. En fait,
c'est surtout qu'il fallait voir les préquels juste avant, qui étaient encore sur YouTube.
Exactement.
Il fallait le chercher aussi.
C'est Exodium qui est l'introduction parfaite au film. Mais en fait, on en revient toujours au même. C'est juste que, comme je disais, un projet de festival, tu y réfléchis, tu te dis qu'est-ce que t'as envie de montrer, comment tout ça. C'est ce que je dis. On s'est posé comme condition de mettre en avant de soutenir les cinéastes émergents et de regarder un peu ce qui se fait ailleurs qu'aux États-Unis. Bon, ça, c'est des envies, c'est des critères qu'on s'impose. Après, forcément, il y a aussi une programmation. Ça se monte de manière très organique en fonction de ce que tu vois. D'autant plus que nous, on est contraints par les nouveautés, hein, puisque une fois que les films sont plus en avant-première, ça nous concerne plus. Et tant mieux, ça veut dire qu'ils sont visibles ailleurs, tu vois. Donc, ça fait beaucoup de critères qui fait que, forcément, il y a toujours des moments où on se pose la question, est-ce qu'on a trop de films américains? Est-ce qu'on n'a pas assez de films étrangers?
Voilà, c'est bien parce qu'on se pose la question de manière saine, parce que beaucoup de gens...
Justement, j'allais vous poser une question par rapport à ça, parce que vous, quand tu parles de contraintes de choisir les avant-premières, c'est une ligne directrice.
C'est une ligne artistique,
dans laquelle vous vous permettez de, comme on a dit, voilà, de en même temps de greffer en fonction, un certain, presque un militantisme dans un sens, de décider de montrer, de favoriser certains films. Là, c'est tout ce qu'on a dit. Comment est-ce que ça se passe avec tout ce qui est distributeur, exploitant, parce que vous devez avoir des propositions, des packs, je pense, qu'on vous propose, ça doit... Est-ce que vous en êtes mis certains à dos, des fois, en disant non, quoi? Comment on vous perçoit, quoi, en tant que festival?
On s'est mis personne à dos, hein, on n'a pas eu de grosses prises de tête, forcément. Le cinéma, c'est un milieu qui est un peu particulier, il y a des gros enjeux financiers sur certains films, tu vois, donc des fois, c'est plus compliqué d'avoir des avant-premières que d'autres. Mais globalement, en fait, tu prends ton clavier, tu fais bonjour, j'organise un festival de cinéma fantastique à Toulouse, est-ce qu'on pourrait avoir ce film en avant-première? À quelles conditions? Il faut voir les films aussi, donc tu demandes des liens où tu vas les voir dans d'autres festivals. Enfin voilà, c'est un vrai travail de programmation. J'aurais tendance à dire que les premières années c'était un peu plus compliqué, parce que forcément, t'es un nouveau joueur, hein, qui arrive dans le game, qu'est-ce que c'est que ça, le festival Grindhouse Paradise? Ça se trouve, ça se fera même pas, machin. Bon, ok, maintenant, 5 ans après,
après, enfin en train de préparer la 5e édition. Ils ont vu ce qu'on a fait. On est quand même passé de 500 spectateurs pendant le Covid à 2000 spectateurs l'année dernière sur 3 jours, ouais. Ce qui est plutôt une bonne un critère qui permet aussi de montrer patte blanche aux distributeurs. On fait attention à ce qui relève du piratage. On invite des réals. On continue à communiquer sur les films quand ils sortent ensuite en salle ou quand ils sortent en VOD. Voilà, c'est un ensemble, je pense, de choses qui font que un festival, c'est pas juste balancer un film sur un écran et puis on en parle plus, on en est débarrassé. Non, faut continuer à en parler après.
Faut jouer le jeu.
Voilà, faut jouer le jeu de continuer à soutenir le film, même une fois que le festival il est passé. On prend le temps aussi de faire des retours aux distributeurs pour leur dire voilà, l'avant-première s'est bien passé, il y a eu tant de monde. Enfin, c'est une relation qui est quand même un petit peu commercial, faut pas se voiler la face, mais il y a aussi forcément, quand t'as des premiers films ou des petits films indés, derrière il y a les gens qui carburent aussi à la passion, tu vois, donc c'est un peu un mélange, c'est la rencontre de ces deux univers qui font que je pense que maintenant on commence à être identifié par pas mal de distributeurs français, ça c'est cool, et européens également, ouais.
Ça c'est cool, bravo.
Ouais, ça c'est chouette.
En tout cas, vous nous avez bien appâté avec votre festival, mais déjà donner les dates. C'est en avril, je crois.
Cette année, c'est du 25 au 28 avril.
Ah, d'accord, c'est le dernier week-end.
Ouais,
quoi,
on a changé, c'était les vacances avant.
Ok, et quelques films quand même qui concernent l'affiche.
Non, on n'a pas fini la programmation, c'est toujours un peu compliqué.
Juste un ou deux, allez.
On peut vous donner la séance culte, hein, puisque cette année ce sera Robocop.
Ah oui, cool. Vu que la thématique c'est IA, c'est ça, c'est
exactement.
IA fait son cinéma.
Ouais, IA fait son cinéma, ça c'est un projet qu'on a avec le Quai des Savoirs. On organise un cycle de projections, une projection par mois de mars à juin, et en avril, comme on pouvait pas faire une autre soirée avec le festival, on est déjà à la casquette. Donc on s'est dit, notre séance dans le cadre du cycle intelligence artificielle, on la met pendant le festival.
Ouais.
Et ce sera la séance culte, et on en a discuté avec Fred.
Il a un bon regard d'intérêt, Robocop, en ce moment, en plus, avec le jeu vidéo et tout, là.
Ouais.
J'ai vu qu'il y avait la présentation, oui. En 23 mars, je crois.
On a
ça.
Effectivement une
et avec, séance. Et avec une séance qui s'appelle Upgrade.
Upgrade, voilà, un film australien. En fait, du coup, en mars, le mardi, c'est le mardi 23?
J'ai
oublié la date, mais en tout cas, c'est une forme qu'on a expérimentée l'année dernière, mais comme on finit la programmation du festival à la mi-mars, on donne rendez-vous.
26 mars.
Voilà, c'est le mardi 26 mars à l'American Cosmograph à 19h. Donc on organise une séance avec un film fantastique, film de genre, et on profite de cette séance pour prendre le temps avant le film, pendant une demi-heure, de présenter toute la programmation du festival qui se déroule en avril. Et c'est un rendez-vous qui a super bien fonctionné l'année dernière. On a présenté tous nos films en exclusivité à ce moment-là. Et quelques jours après, c'était sur le site. Mais du coup, on avait il y avait 130 personnes qui ont fait le déplacement pour voir un petit peu ce qu'on allait proposer pendant le festival, pour discuter avec eux. On paye une bière entre la présentation du festival et le film. Enfin voilà, nous c'est aussi un peu comme qu'on aime parler des films et rencontrer notre public.
Il y a pas que rentrer dans une salle et sortir quoi. Si on a fait un festival aussi, c'est parce qu'il y a tout ce côté où on a envie de discuter avec des gens comme nous.
À fond.
Très bien, on arrive à la fin de cette émission, il nous reste encore un petit peu de temps. Alors on va faire le programme de la journée avec le morceau de musique en fond, hein, comme ça quoi. J'aurais passé le Fred quoi. Le Fred, le 3, ouais.
Il faut donner des indications.
Donc là, ce soir, donc vas-y, cool. ce soir, donc, présenté. Dans le cadre de la carte blanche à Grindhouse Paradise, c'est La Mesita del Comedor, le film de Kaye Casas. On en a parlé en long, en large et en travers, donc si vous n'êtes pas au courant, je sais pas quoi. C'est à 21h, donc dans la grande salle. Mais auparavant, il y aura eu d'autres films. Attends que je reprends mon machin, quoi. Il y aura eu là, en ce moment, c'est la fin de Colorado. Il n'est pas encore terminé, le film. Enfin, il aura bientôt terminé, quoi. Le film de Solima, donc vous l'avez loupé. Mais par contre, vous aurez en fin d'après-midi ou en début de soirée, c'est comme vous voulez, un deuxième film de Roger Corman. Roger Corman, donc, dans le cadre d'un double programme. Le premier, c'était hier soir, Mitra et Kelly. Là, c'est Les Anges Sauvages, The Wild Angels. Pour une fois que le titre est bien traduit, ça vaut le coup. c'est pas mal, un film qui date de 66. Alors c'est l'année où Corman il a fait 5 films, 5 ou 6 d'ailleurs, en 66, hein. Donc vous voyez, il y a du truc, quoi. Et hier je vous avais parlé de Corman producteur, d'accord, eh ben, aujourd'hui je vais vous parler de Corman acteur également, car il joue également dans certains films, et en particulier déjà dans Sharktopus, le premier, le tout premier, hein, dans Dino Shark aussi. Voilà. Il fait une apparition, quoi, mais il joue dans les films un petit peu plus, on va dire, commerciaux, comme on le voit dans Le Silence des Agneaux, quoi, et on le voit également dans Hurlement, quoi, vous savez, le film avec Joe Dante, là, en 80, là, avec les loups, et dans le Crime dans la tête, Un crime dans la tête, donc, mais la version avec Denzel Washington, pas celle avec Frank Sinatra, l'original sorti en 62, The Manchurian Candidate, voilà, quoi. Et dans ce Ange sauvage, dont Peter Bogdanovich a beaucoup participé, parce qu'il a participé au scénario, il a participé au montage, il a participé à la photo, prise d'image et tout. Enfin,
il a quasiment tout fait, il est en train de dire là.
Voilà, ouais, ouais. Là, ouais, mais il n'a pas signé le truc réalisateur. Donc on retrouve quand même un casting un peu du lourd, quoi, on va dire, avec Peter Fonda, Gail Hennicutt, Nancy Sinatra, ben, je parlais de Frankie juste avant, il y a sa Fifi, donc qui joue dans ce film, Bruce Dern, Diane Ladd, qui à l'époque étaient mariés ensemble, hein, qui voilà, quoi. Et tout ça, donc, eh bien, c'est une histoire de bikers de Los Angeles. Alors ça part sur un fight, et puis il y a une moto qui est cassée, et puis donc il y en a un qui se retrouve à l'hôpital, et puis ça va dégénérer, et les flics vont s'en mêler, et alors là ça va être délirant.
Trigger warning très 60s sur ce film.
Ouais, absolument,
qu'il faut voir,
hein. Ah, mais il faut le voir, absolument. Ah, il faut savoir que quand le film est sorti, les Hells Angels, les vrais, eh bien, ils ont posé plainte en justice pour dire qu'on avait mal parlé d'eux dans le film.
Vous pouvez retrouver toutes ces anecdotes dans le livre Hells Angels de Hunter S. Thompson.
Exactement. Et donc, ils ont réclamé 5 millions de dollars, ils les ont obtenus, hein, pour vous dire, quoi. Corman, il était un peu pas joie.
C'est un film qui est avec des enfants de cœur, en fait.
Ouais. Donc, ça, c'est les gens sauvages, et donc, je me répète, donc la Messita des Commodores. Ce soir, il y a également l'entracte qui est situé entre les deux films, entre Les Anges Sauvages et la Messita des Commodores. Et ce soir, l'extrême entracte, donc c'est toujours à 20h45 avant le début de la grande séance le soir. Et là, ce soir, c'est Angèle Depressless Show. Donc, je ne peux pas vous en dire plus, hein, c'est performance. Donc, vous voyez, il y a un petit peu de poésie dedans et pas mal de petites choses très sympas. Et ça se passe dans le hall de la Cinémathèque, donc ça, c'est gratos, même pas besoin de prendre un ticket. Voilà, cette émission est complètement terminée. On vous donne rendez-vous à
demain, pareil,
à 13h, hein. Et en principe ça va basculer tout de suite sur Radio Booster en ce qui concerne la bande FM. Allez, je remercie encore mes invités, Johan et Guilhem,
merci à vous,
Last Hétéro, merci, l'homme que vous avez entendu, que j'ai pas présenté parce qu'il a commencé à parler, on était déjà bien installé, eh bien, c'est Axel, yes. Et Infested Grunt. Merci à toutes et à tous. Merci à Léo Caddy et à Mathias pour la technique. Et à demain.
Éphémère 89.1. Éphémère 89.1. Irritant.